On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous trouviez avec moi le psaume 123. On va appeler ça le bon réflexe pour 2023. Quand les choses arrivent, les choses difficiles. Pas si pour faire quelque chose. Ah oui, Miché. Ça, je sais pas si ça s'est éteint. Quelle est la réponse, la réaction qu'il faut avoir face à ces difficultés? Alors, regardez le psaume 23, c'est un des psaumes très très courts, un des psaumes des degrés ou de pèlerinage. Je vais vous le lire. Il dit ici, Cantique des degrés, 123. 1, 2, 3. Le psaume 123. Voilà. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Voici donc la parole de Dieu. Quel est le réflexe ici qu'il a au tout début de ce psaume? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dur, hein? Il lève les yeux vers l'Éternel. Et moi, je suggère que cela doit être vraiment un réflexe. On peut même y penser physiquement. Hein, c'est la même expression qui est utilisée deux psaumes avant. Vous pouvez reculer de deux psaumes. Le 121, qui dit quoi là au début? Je lève les yeux vers les montagnes. Et puis il y a cette réponse, d'où viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc lui, il regarde autour de lui, il voit les montagnes, et on a voit une certaine protection qui pourrait offrir ces montagnes. Il dit, mais moi je sais que le secours vient de celui qui a créé ces montagnes. Donc il regarde à la nature pour regarder plus loin, pour regarder au Dieu de la nature. Et ici, directement, il part pour parler à Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers toi. Mais au lieu de dire toi, Dieu ou Éternel, il le décrit d'une certaine manière. Comment est-ce qu'il le décrit? Voilà, comme celui qui siège dans les cieux. Et nous trouvons le même mot dans le psaume 2. Que dit le psaume 2? Voilà, celui qui siège dans les cieux rit. Et là, il est comparé au roi de la terre et aux princes qui se liguent ensemble. Mais eux, ils sont sur la terre et Dieu, il siège dans les cieux. Et pour lui, il n'est pas affecté par cela. Là, je vous montre simplement ma Bible numérique. Vous ayez une idée de choses qu'on peut faire avec, en notant même sur une page, hein, vous pouvez faire ça, ces choses sur ça, sur des choses comme ça, sur une page imprimée ou sur votre Bible. Mais il lève les yeux. Donc notez les occurrences de ce mot, les yeux. Donc il y a mes yeux là, puis les yeux des serviteurs, les yeux de la servante et nos yeux. Donc on a quatre fois ce mot, yeux, qui revient dans ce psaume. C'est vraiment l'idée centrale. Je lève les yeux vers l'Éternel, celui qui siège dans les cieux. Est-ce qu'on peut penser à ça quand les difficultés arrivent? En attendant, c'est même une expression de baisser la tête. Hein? On va dire on est courbé, on est abattu, parfois on dit on est même terrassé. Hein, ce sont des expressions, mais qui parlent même d'une réaction physique, parce que ça peut arriver physiquement, mais même émotionnellement, on peut dire je suis terrassé, je suis abattu, je suis accablé. C'est les yeux qui baissent, la tête qui baisse. Le chrétien doit avoir comme réflexe de lever les yeux vers celui qui siège dans les cieux. C'est un réflexe qu'il faut apprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Ça peut devenir quelque chose, vraiment comme ça, un réflexe immédiat. De pouvoir tout de suite penser au Seigneur dans les cieux, et de crier, de lui demander son aide dans les difficultés, les maladies, les relations difficiles, les mauvaises nouvelles qui arrivent. Ce réflexe, lever les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur nous aide à voir ça comme réponse. Et Dieu est appelé ici celui qui siège dans les cieux. Et puis il y a cette comparaison. Vous notez ce mot « comme » ici. Hein? Donc, nos yeux se lèvent vers Dieu. Et puis, il va nous dépeindre cette image de quelque chose qui se fait sur la terre. Et il va créer une comparaison. On lève les yeux vers celui qui siège dans les cieux d'une certaine manière. De quelle manière? Eh bien, comme les yeux des serviteurs, on peut dire le mot « esclave » ici aussi. Sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, vous voyez, donc on a comme et ainsi. Ça lie les deux choses ensemble. C'est une comparaison que le Saint-Esprit veut faire dans notre tête ici. Comme un serviteur, comme un esclave mâle envers son maître ou une esclave femelle envers sa maîtresse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut nous aider avec cette image d'un serviteur ou d'un esclave qui a les yeux fixés sur la main de son maître? Alors, on n'a pas trop ça aujourd'hui, hein, de jour en jour, on ne voit pas ça dans le monde. Oui, André. OK. Ça, c'est quelque chose, il est là pour attendre l'instruction de son maître. Très bien. Quelqu'un d'autre?
Obéir au moindre signe.
OK. Il est prêt à obéir au moindre signe.
Soumission.
Donc, une soumission. Une quoi, pardon, Viviane?
L'expression, c'est au doigt et à l'œil.
Au doigt et à l'œil. Merci.
Un regard ou un...
Oui, parce qu'il y a la mention de la main ici. Hein. On va revenir à ça.
Éveillé.
Pardon?
Éveillé.
Donc, il est éveillé. OK, attentif. Oui, Laurent?
Disponible.
Il est disponible. OK. Très bien.
C'est ouvert.
OK. Il anticipe
aussi.
Anticipe, c'est ça le mot? Il anticipe, ouais. Qu'est-ce que le maître ou la maîtresse veut de lui? Oui, Daniel.
Il attend la parole de son maître.
Il attend, d'accord, pour la parole, direction, ou réconfort ou autre chose de son maître. Oui, René.
Il attend aussi à la récompense, il va pouvoir ses besoins.
OK. Il attend une récompense ou une réponse à un besoin qu'il a. Oui.
Et quand je l'ai dit disponible, j'ai oublié de dire aussi bien disposé.
OK. Et bien disposé. OK, notez la fin ici, verset 3. Hein, je l'ai, parce qu'il y a une répétition. Moi, j'aime bien regarder dans ma Bible, là où il y a des répétitions dans un... Et là, dans ce logiciel, quand tu mets sur une parole, ça souligne les autres qui sont pareils. Mais là, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà entouré. On a trois fois cette idée d'avoir pitié. OK? C'est vraiment ça qui est recherché ici. Il n'y a pas de doute, je crois, hein, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et puis, il crie et il demande, direct, « Aie pitié. » Vous voyez le A-I-E, là, au lieu de A-I-T. « Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié de nous. » Et le problème qu'ils ont, c'est quoi? Et là aussi, on a un mot qui est répété. Ça, c'est la poésie hébraïque où on a souvent ces répétitions. On ne peut pas souligner, on ne peut pas mettre en gras. À l'époque, on répétait pour souligner. Eh bien, nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Donc voilà, j'ai mis en violet, on ne le voit pas très bien là sur le noir, mais les méchants hein, qu'on retrouve dans les psaumes, avec différents noms. Ici, ce sont des orgueilleux, ce sont des hautains. Hein, et le problème, c'est les moqueries et le mépris hein, qui revient là à deux reprises. Moquerie, mépris, et encore mépris. OK, donc revenons. Avec cette idée, revenons à l'esclave et son maître. Le problème, ici, et il termine avec ça, hein, c'est que ces personnes qui lèvent leurs yeux vers Dieu vivent dans un monde où ils sont moqués et dans un monde qui est plein de mépris. Est-ce que vous sentez, même vous les jeunes à l'école, sinon au travail, même dans la famille parfois, est-ce que vous sentez le mépris? Si ce n'est pas des moqueries, parfois c'est des moqueries, mais quand ce n'est pas des moqueries, parfois c'est quand même du mépris. Est-ce que vous avez senti cela? Et dans ce contexte, vous avez besoin de pitié. Mais vous allez vers qui pour avoir cette pitié, cette grâce? Et il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même si vous êtes un salarié, vous êtes un ouvrier, par exemple, vous savez, vous êtes parmi les plus protégés du monde en tant que salarié ou ouvrier. Vous avez tout un système légal, juridique, le gouvernement, qui est là pour protéger les droits des travailleurs. Donc, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller au travail, votre patron ne peut rien faire contre vous. Hein, si une femme tombe enceinte, votre employeur a des responsabilités, des devoirs envers vous. Et malheureusement, après, il y a parfois des employés qui abusent de ces choses. Mais c'est une grâce d'avoir des protections. On a le droit de partir à la retraite. Hein, même si, OK, peut-être ça va s'allonger, et tout le monde est fâché à cause de ça, il faut savoir qu'il y a pas très longtemps de cela, la retraite n'existait pas. On travaillait jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus, et puis on espérait qu'il y avait la famille pour nous aider. Et surtout, à l'époque, quels droits légaux avait un esclave? Imaginez qu'il est... Il est abusé, il est maltraité par, on veut dire, d'autres esclaves. Ça se faisait. Parfois, il y avait même, on lit ça dans l'histoire, il peut y avoir des bagarres, des mini-guerres entre esclaves qui allaient régner là, dans les quartiers des esclaves. Et c'est le plus fort qui gagnait. Imaginez que vous êtes esclave. Imaginez que vous êtes une femme. Et vous n'avez aucune protection contre, on va dire, des hommes qui veulent s'abuser de vous. Le seul espoir que vous avez, la seule personne qui peut vous aider, c'est votre maîtresse ou votre maître. Et si lui décide de tourner le dos et lui dire « je m'en fiche », vous n'avez aucune autre chance. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Vous ne pouvez pas porter plainte. Vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous allez vers votre maître ou votre maîtresse. Et vous suppliez son aide. Vous suppliez sa protection. Vous savez que lui ou elle seule peut intervenir et dire stop. Mais vous savez peut-être qu'elle a plein d'autres soucis. Peut-être ses enfants sont malades. Elle est sur le point de partir en voyage, elle ne va pas revenir pendant des mois. Vous avez ce petit créneau d'heure et de temps et vraiment, elle ne s'intéresse même pas à vous. On ne peut pas ressentir le désespoir qu'avaient ces esclaves. Personne pour les aider si le maître ou la maîtresse refusait. Et donc, les yeux de la servante regardaient vers la main de la maîtresse ou du maître. Et souvent, dans l'Ancien Testament, la main est une image de la puissance de quelqu'un. Et ça parle même de la main de Dieu, par exemple. Et le contrôle qu'il a sur une situation. Et donc, cet esclave regarde vers la main, c'est que la main du maître ou de la maîtresse qui peut intervenir. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre secours, il n'y a que lui. Ça, c'est l'image ici. Et donc, eux, vivent dans une situation où il y a des moqueries, il y a des orgueils, il y a des hautains tout autour d'eux, ils se moquent d'eux. Et il dit, on est dans la situation de ces esclaves. On n'a pas d'autre espoir. On n'a pas de plan B. On ne peut pas porter plainte. Nos yeux sont fixés sur toi. Mais tu es mieux qu'un maître, une maîtresse. Toi, tu sièges dans les cieux. Et donc, on continue à regarder. Et le psaume nous laisse sur ce point d'orgue. En fait, il n'y a pas vraiment de résolution dans ce psaume. Vous avez senti ça? Il n'y a pas de résolution. Ça, regarde, les derniers mots, c'est le mépris des hautains, ici. C'est comme un film qui termine, ici, avec le serviteur qui regarde et qui attend. Et puis ça s'arrête. On se dit, mais où est le dénouement de l'histoire? Il n'y a pas de dénouement ici. Et je sais que c'est exprès, hein, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, c'est vraiment des créations d'art, hein, ces psaumes. Mais ça nous laisse donc sur ce point d'orgue de quelqu'un qui est là, il n'ose même pas respirer, il est là, il regarde la main du maître pour voir. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, le sceptre, comme Esther qui est rentrée, elle regarde la main. Est-ce qu'il va lever le sceptre pour dire « oui, tu peux rentrer » ou est-ce qu'il va le rabaisser pour dire « non, il faut que tu meurs ». Regarde le moindre mouvement du maître. Ça, c'est l'anticipation qu'a le croyant ici. Mais il regarde vers Dieu. Et donc en 2023, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on peut fixer nos yeux et on peut créer ce référent. On peut dire, Seigneur, aide-nous, chaque fois que les choses arrivent. à regarder vers le seul qui peut m'aider. J'ai peut-être personne d'autre qui peut m'aider. Mais lui, il siège dans les cieux. Et donc, je vais fixer mes regards sur lui. Que ce soit une maladie, comme David a parlé, que ce soit une difficulté financière, que ce soit vraiment une douleur dans le cœur. Je fixe mes yeux sur Dieu. C'est ce que nous devons faire. Que Dieu nous aide à le faire cette année.